Nous le retrouverons deux fois par mois, ce journal du Prochain Moyen-Orient avec Wilson Fash. Et ce soir, nous retournons en Afghanistan à l'occasion du premier anniversaire du retour au pouvoir des talibans le 15 août 2021.
La première, le fin mot, Eddie Kakelberg.
Bonsoir Eddie, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver donc pour une troisième saison de ce journal du Moyen-Orient. Et ce soir, je vous emmène en Afghanistan. Vous le savez, le 15 août 2021, les talibans s'emparaient de Kaboul et ils reprenaient de ce fait le pouvoir en Afghanistan. Et donc, je me suis rendu sur place pendant un mois cet été pour documenter la situation dans le pays un an plus tard. Et je vous ai préparé trois émissions spéciales. Alors ce soir, on va revenir sur la crise économique qui ravage le pays depuis un an. Et on va aussi écouter le témoignage d'un officier, un ancien officier afghan, qui aujourd'hui eh bien, vit caché à Kaboul et qui a peur d'être retrouvé par les talibans. Puis dans deux semaines, on parlera culture avec une émission consacrée à ces artistes qui résistent. Et puis on terminera avec une troisième émission consacrée aux zones rurales. On va sortir de Kaboul et on va aller dans la province de Wardak pour parler avec ces villageois qui, eux, eh bien, se félicitent du retour au pouvoir des talibans. Et tout de suite, nous prenons la direction de Beyrouth pour retrouver notre chroniqueuse Caroline Hayek. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Wilson.
C'est un plaisir de vous retrouver pour une troisième saison avec cette chronique vue de Beyrouth. Et avec vous, on va commencer par un état des lieux de la situation d'Afghanistan. Aujourd'hui, c'est donc un pays au bord du gouffre, à la fois miné par une crise économique et humanitaire.
Oui, le pays s'enfonce jour après jour dans une crise aux conséquences complètement désastreuses. 38 millions d'habitants sont confrontés à une pauvreté extrême. On sait que plus de 90% de la population ne mange pas à sa faim, selon le Programme alimentaire mondial. Plus de 90% des Afghans aussi ont vu leurs revenus se réduire, voire complètement asséchés. Il y en a beaucoup qui se sont endettés cette année pour la première fois de leur vie. On a vu aussi des témoignages de familles qui ont dû choisir entre vendre leur petite fille ou vendre un organe. C'est complètement absurde. Alors, cette crise économique, elle est de nature politique. On sait qu'avec le retrait des Américains, ça a été accompagné de sanctions économiques. Et elles sont considérées par beaucoup comme une punition collective pour le peuple afghan. Les aides internationales finançaient, le précédent régime finançait plus de 75% du budget de l'État. Et tout ça a été forcément arrêté. Jusqu'à maintenant, le régime taliban n'est reconnu par aucun État. Et la crise humanitaire s'explique aussi à travers la crise mondiale, par la flambée des denrées alimentaires qui sont dues notamment au conflit en Ukraine et aussi aux conditions météorologiques. Vous qui revenez d'Afghanistan, vous avez pu voir qu'il y a eu un hiver glacial, puis une sécheresse et puis récemment, en juillet, un terrible tremblement de terre qui a tué plus de 2500 personnes.
Et un mot également sur la situation des femmes dans le pays. Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont volé aux Afghanes la majorité des droits qu'elles avaient acquis ces 20 dernières années.
Oui, complètement. Je me souviens d'avoir parlé au moment du retrait américain il y a plus d'un an à une jeune femme, une étudiante de Kaboul de 28 ans, qui avait reçu ce jour-là un SMS de son cousin, qui est un taliban de Kandahar. Il était super heureux, il lui a dit « c'est notre tour à présent ». Et donc depuis, elle n'en dormait plus de la nuit, ses rêves ont été fracassés, elle s'est demandé comment elle allait poursuivre ses études et elle vivait constamment ces derniers mois dans la peur. Et comme elle, des centaines de milliers de femmes ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le pays, ces dernières décennies, était majoritairement socialement conservateur, mais les femmes avaient acquis certaines libertés. Et donc aujourd'hui, elles sont de nouveau privées. Donc à leur arrivée, les talibans s'étaient engagés à laisser les femmes travailler. Ils avaient annoncé que la burqa ne serait pas obligatoire, que les filles pourraient aller à l'école, à l'université. On a vu que, bien sûr, les promesses n'ont pas été tenues. En mars, ils ont ouvert les écoles, ils les ont refermées aussitôt. Donc les petites filles n'ont pas pu aller au collège, au lycée. Début mai, donc au printemps, le chef suprême des talibans a ordonné aux femmes de porter le voile intégral, de préférence la burqa. Ils ont largement exclu les femmes des emplois publics, ils ont restreint leur droit à se déplacer. On l'a vu il y a deux semaines, le 13 août, donc peu avant la date anniversaire de leur arrivée triomphante à Kaboul. Une quarantaine de femmes ont eu le courage de descendre manifester en scandant « pain, travail, liberté ». Au bout de cinq minutes, elles ont été dispersées par des tirs des talibans. J'ai eu des nouvelles de Yasmine, donc, qui a pu poursuivre ses études avant que les universités ne ferment pour les femmes. Elle a récemment reçu un avertissement de la police de la moralité pour sa tenue vestimentaire. Bon, elle continue à vivre dans la peur, mais elle dit qu'il y a encore beaucoup de femmes à Kaboul qui portent des pantalons, mais elle craint qu'au fil des mois, ça se durcisse davantage.
Caroline Hayek, vous restez avec nous. On va l'entendre, cette crise économique, elle touche les femmes justement de façon disproportionnée. Ce sont elles désormais qui doivent venir mendier par dizaines devant les boulangeries de Kaboul pour commander un peu de pain aux clients. Dans le quartier de Baharistan, j'ai rencontré notamment Camilla qui était arrivée devant la boulangerie à l'aube. Voilà 2 mois maintenant que cette mère de 5 enfants était contrainte de venir là chaque matin pour commander du pain. Et elle était vêtue d'une burqa, une burqa bleue qu'elle avait achetée en seconde main, non pas par conviction religieuse, ni non plus par crainte des talibans, mais parce qu'elle m'a dit qu'elle avait en fait honte de mendier, et du coup sa burqa l'aidait à se cacher, à rester anonyme.
Je viens ici depuis le mois de Ramadan. La raison est que mes enfants mourront si je ne viens pas ici pour mendier. Nos hommes sont au chômage, alors j'ai décidé de venir ici en espérant que quelqu'un nous donne un morceau de pain. Toutes les femmes ici ont le même problème. Nous devons payer les factures d'eau et d'électricité, mais nous n'avons plus d'argent. Avant les talibans, j'avais un travail. Ma situation était bien mieux à l'époque. On travaillait longtemps et on pouvait s'acheter à manger. Avant, je travaillais comme femme de ménage chez des femmes ici, dans le quartier de Karthe Parwan, mais toutes ces familles sont parties à cause des attaques de l'État islamique. Maintenant, nous sommes sans emploi et mon mari ne peut pas travailler parce qu'il est blessé à la jambe. Nous avons survécu à la pandémie de Covid et à la guerre. Maintenant, j'ai peur que la famine nous tue.
Une dizaine d'autres femmes sont aussi assises sur le trottoir. Elles sont chacune dotées d'un sac en plastique qu'elles espèrent remplir de ces pains ronds et plats qui les narguent en vitrine. Un nouveau rituel pour de nouveaux pauvres, enfin de nouvelles pauvres, puisqu'il s'agit principalement de femmes. Il y a Shringul notamment, dont le mari travaille pour les services de renseignement, c'est-à-dire qu'il avait un salaire tout à fait honnête, largement suffisant pour élever leurs 6 enfants, jusqu'à la chute de Kaboul et le retour au pouvoir des fondamentalistes, qui ont obligé le mari de Shringul à quitter son poste, à vivre caché et donc à perdre son salaire. Et donc sa femme aujourd'hui est obligée de baisser la tête et lever la main. Et puis Aoulia aussi, qui est assise sur une bouche d'égout, elle a marché pendant 2 heures avant de venir échouer ici. C'est comme ça chaque matin. Le peu d'argent que son mari gagne en vendant des légumes ne suffit pas à subvenir aux besoins de la famille. Les clients viennent à manquer et l'inflation asphyxie.
Mon mari avait un magasin, mais à cause du chaos, le jour de l'arrivée des talibans, on lui a tout volé. Nous n'avons pas d'autre source de revenus. Toutes les femmes ici viennent d'horizons différents. Je viens du nord de Kaboul, d'autres sont du Panjshir ou d'autres provinces.
Un homme qui se présente comme un ancien officier de l'armée arrive alors et il achète une dizaine de pains qu'il commence à distribuer au groupe de femmes qui sont assises par terre.
Voir la situation de ces femmes m'a rendu triste, alors j'ai voulu aider et maintenant je viens ici tous les jours pour distribuer du pain. Avant aussi, il y avait des mendiants dans la rue, mais pas autant qu'aujourd'hui. Sous la République, je ne sais pas, peut-être que 20% de la population vivait sous le seuil de pauvreté, mais maintenant c'est 80% des gens.
Ce sont des pains qui coûtaient environ 10 centimes il y a un an. Aujourd'hui, ils coûtent 20 centimes. Le prix a doublé. La faute, apparemment, à la guerre en Ukraine et à la situation économique. C'est ce que le boulanger m'explique. Il me dit qu'évidemment, il y avait déjà des mendiants avant, mais pas dans de telles proportions. Il me dit que ça fait 35 ans qu'il fait ce métier et qu'il n'a jamais vu ça. Et qu'aujourd'hui, ils ont jusqu'à 100 mendiants par jour qui viennent camper devant leur boulangerie. Selon Mélissa Cornet, qui est une experte française indépendante, basée en Afghanistan depuis 2018, eh bien, cette crise actuelle, elle a des conséquences plus terribles encore, encore plus dramatiques pour les femmes.
Je viens de finir une étude justement sur l'impact de cette crise alimentaire sur les femmes et les filles. Donc on a pu interviewer 345 ménages, donc 345 femmes et leurs familles. Plus de 87% de ces femmes ont indiqué que leurs revenus s'étaient effondrés en fait au cours de l'année de l'année écoulée. Et ce que ça veut dire, c'est que elles sont obligées de sauter des repas, de manger du riz, de ne sont plus capables en fait de nourrir leur famille avec des produits de qualité. Et ce qu'on a observé en interviewant ces femmes, c'est que il y a vraiment une hiérarchie au sein des familles afghanes qui fait que les femmes sont pratiquement systématiquement les personnes qui se nourrissent le moins et le moins bien au sein de leur famille. Elles vont toujours prioriser leur mari et leurs enfants. Et ça a des conséquences très néfastes, notamment pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. En termes de nutrition, ça a un impact à long terme sur le développement de leurs enfants à naître ou de leurs enfants qui sont de leurs jeunes enfants.
Il faut savoir qu'avant le retour au pouvoir des talibans, les trois quarts de l'économie afghane dépendaient des aides étrangères. Et ces aides, elles ont été coupées du jour au lendemain, au départ des forces occidentales et au retour au pouvoir des talibans. Et puis aussi, il y a toute une série de mesures punitives qui ont été prises par les puissances occidentales contre le nouveau régime taliban, notamment la saisie de la réserve nationale afghane par les États-Unis, et aussi en fait le fait que la banque centrale afghane a été déconnectée du système bancaire international. Et tout ça, ça a créé une crise des liquidités, une explosion de l'inflation et un bond du chômage. À Kaboul, je me suis rendu dans un parc industriel qui est juste en dehors de la ville, près de l'aéroport international. Et là, eh bien, la majorité des usines ont dû fermer leurs portes. L'entreprise textile de Marwais Taufik, elle employait 700 personnes sous le précédent gouvernement, dont 500 femmes. Et bien aujourd'hui, tout le monde est au chômage. Depuis que le système bancaire est paralysé, il ne peut plus importer de matériaux ni exporter les produits finis. Et donc, il a été contraint de fermer les portes et de renvoyer tout le monde.
Tout ça m'attriste beaucoup. Nous aimerions pouvoir employer les gens et leur donner un salaire, mais ce n'est plus possible. Comme vous pouvez le constater, les machines sont à l'arrêt. Plus personne ne travaille et nous ne savons pas ce que nous allons faire. Personne ne sait.
Caroline Hayek, vous êtes toujours en direct avec nous depuis Beyrouth par téléphone. Aujourd'hui, en fait, le dilemme pour les puissances occidentales, c'est que, évidemment, elles veulent obtenir des concessions des talibans, et notamment sur la question des droits humains, et notamment sur la question des droits des femmes. Mais s'ils maintiennent leurs sanctions, leurs mesures punitives, ils risquent aussi de prolonger la souffrance de la population.
Bien sûr, bien sûr. Et le fait que le pays soit déconnecté du système bancaire international est quelque chose de très, très grave. Il faudrait beaucoup d'économistes militent pour permettre des transactions économiques légitimes. On a vu notamment un rapport de Human Rights Watch qui plaide en ce sens. Il y a eu beaucoup d'espoir aussi sur la décision de Joe Biden qui souhaitait allouer la moitié des 7 milliards de dollars d'avoir qui ont été gelés de la Banque centrale d'Afghanistan. C'est des fonds qui ont été bloqués aux États-Unis. Il voulait allouer la moitié donc, à l'indemnisation des familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001. Et l'autre moitié les consacrer à l'aide humanitaire à l'Afghanistan, tout en s'assurant que cet argent ne tomberait pas entre les mains des talibans. Donc il y a eu des discussions en ce sens, mais depuis la frappe de drone américaine qui a causé la mort d'Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, qui avait pris la direction du groupe après la mort de Oussama Ben Laden et qui était logé, nourri, blanchi par les talibans, Joe Biden a rétropédalé, donc selon des informations du Wall Street Journal, après cette frappe fin juillet. Donc c'est une très, très mauvaise nouvelle, parce que les économistes qui plaidaient pour que la totalité même soit rendue au peuple afghan, ce qui leur revient de droit. Mais avec cette décision américaine va avoir des conséquences terribles sur la population.
Au-delà de la crise économique et des sanctions occidentales, Caroline Hayek, le problème pour toute une partie de la population, c'est évidemment les talibans eux-mêmes et leur régime autocratique qui répriment et qui tuent parfois aussi. Je pense notamment aux anciens membres des forces de sécurité afghanes qui aujourd'hui vivent dans la peur parce qu'ils sont en fait traqués par les nouveaux maîtres du pays.
Oui, ils étaient arrivés avec des belles promesses. Ils sont très vite revenus à leurs anciens travers, en appliquant leur vision ultra-rigoriste de l'islam. Alors, certes, il y a beaucoup d'Afghans qui se félicitent, entre guillemets, d'un certain retour à la paix depuis leur prise au pouvoir, parce qu'il n'y a plus de raids américains depuis le départ des forces occidentales. Apparemment, le nombre d'attentats a diminué, même s'il y en a encore. Et il y en a eu un il y a 2 semaines. La plupart sont revendiqués par l'État islamique. Mais ça ne veut pas dire que la population est en sécurité, loin de là. Il y a un rapport de l'ONU qui a été publié en janvier, qui accuse notamment les talibans d'avoir tué plus d'une centaine d'anciens membres du gouvernement, mais aussi des forces de sécurité afghanes. Et puis, alors là, c'est les traîtres ultimes des Afghans qui ont travaillé avec les troupes occidentales. Les talibans traquent les militants pour les droits de l'homme, les employés des médias sont victimes d'attaques, d'intimidations, de harcèlement, d'arrestations arbitraires et même d'homicides.
Et on va entendre justement le témoignage d'un ancien membre des forces de sécurité qui aujourd'hui se sent traqué par les talibans. On va l'appeler Sardar, c'est un pseudonyme. Il était lieutenant-colonel au sein de la NDS, c'est-à-dire les services de renseignement afghans, et il nous accueille chez lui avec une tasse de thé au safran. Sardar m'explique qu'il a passé 7 années au sein de la cellule du contre-terrorisme, qui l'ont fait voyager de la base de Bagram auprès des troupes américaines jusqu'à la prison ultra-sécurisée de Poulel-Chari, où étaient détenus des milliers de combattants talibans qui ont été libérés à la chute de Kaboul. Et donc aujourd'hui, il craint pour sa vie. Il nous raconte cette fameuse journée du 15 août 2021, quand les talibans sont entrés dans Kaboul pour la première fois.
C'est vers 9h30 ou 10h que les talibans sont entrés dans Kaboul. Les gens avaient peur. C'était le chaos partout. Il y avait de gros embouteillages. Certaines personnes couraient vers l'aéroport, mais j'ai gardé mon calme malgré le fait que j'avais mon pistolet et ma radio sur moi, ce qui me rendait identifiable en tant que membre des forces de sécurité. J'ai commencé à marcher vers la ville. Je suis arrivé à la maison à 14h. C'était chaotique et les gens s'enfuyaient. Les forces de sécurité ont changé leurs uniformes en les cachant dans des sacs à dos. Tout le monde essayait de quitter la ville. Je suis rentré chez moi, je me suis préparé à me battre. J'avais une AK-47 avec 4 chargeurs. Je savais que si les talibans prenaient le contrôle de Kaboul, ils puniraient durement les membres des forces de sécurité. Mon objectif était de ne pas être capturé vivant. Cette nuit-là, j'étais conscient que si les talibans prenaient le pouvoir, je me battrais jusqu'à la mort. Puis peu à peu, la situation s'est améliorée et j'ai changé de domicile. La vie est redevenue normale. Cependant, je ne crois toujours pas à leur soi-disant amnistie générale. Voyons ce que Dieu dira.
Il n'a évidemment aucune confiance envers les talibans et pour cause, des dizaines d'ex-membres des forces de sécurité ont déjà été assassinés à travers le pays.
Ils ne comprennent pas la hiérarchie. Ils ne respectent pas le système. Beaucoup de talibans agissent individuellement. Et certains d'entre eux cherchent à se venger. Il y a des centaines de cas où ils trouvent d'anciens membres des forces de sécurité, ils les tuent sur place. Et personne ne prend la responsabilité. Ils disent simplement que la victime avait des ennemis personnels. J'ai interrogé beaucoup de talibans en prison. Je sais que beaucoup d'entre eux sont des analphabètes qui ne respectent pas l'autorité. Ils veulent se venger. Par exemple, à Parwan, ils ont frappé à la porte d'un de mes amis. Ils ont demandé son nom et ils l'ont abattu sur place.
Là, Sardar se redresse soudainement. Avec un sourire, il se dirige vers le fond de la pièce où sont entassées des couvertures, des oreillers. Il s'empare d'un coussin, le soupèse quelques secondes. Il est en fait à la recherche de son uniforme d'officier qu'il a caché quelque part.
Il est ici quelque part, caché sous plusieurs couches de couverture. Nous l'avons très bien caché.
Il fait glisser la tirette du coussin de l'oreiller pour révéler une veste ornée d'écussons. Il y a 2 sabres croisés surmontés d'une double étoile. Il y a aussi une épée, ailée et la carte de l'Afghanistan.
Voilà, ça c'est mon principal uniforme, NDS. J'aime porter cet uniforme. Quand je le porte, je me sens fier de servir mon pays, de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, et pour apporter la paix et la prospérité à mon peuple. Oui, bien sûr, je suis fier d'être un militaire.
Des larmes apparaissent alors au coin de ses yeux bruns. Il serre la mâchoire, incapable de parler pendant de longues secondes. Ces 2 enfants, ils sont là, ils sont présents dans la pièce et ils n'osent rien dire, ils fixent le tapis pour ne pas regarder leur père pleurer.
Excusez-moi, je suis ému. Je n'ai pas peur des talibans, mais quand je pense à la façon dont nous avons perdu notre pays, je ressens de la douleur. Comme moi, il y a des milliers d'hommes qui sont dans la même situation. J'ai travaillé pendant 8 à 9 ans dans des provinces reculées avec fierté. Je n'ai jamais été corrompu. Alors quand nous voyons comment ils nous traitent maintenant, ça me fait mal. C'est ça qui me fait pleurer. Je n'ai pas peur des talibans, mais je dois être prudent. Je me déplace discrètement pour qu'ils ne puissent pas me capturer facilement.
Un an après le retour au pouvoir des talibans, Sardar n'a pas encore fait le deuil de la République. Et puis surtout, comme des milliers d'Afghans à travers le pays, il vit désormais dans la peur. On va continuer à parler de l'Afghanistan dans le prochain épisode de ce journal du Moyen-Orient. Ce sera le vendredi 16 septembre. Merci Caroline Hayek d'avoir été avec nous tout au long de cette émission.
Merci à vous Wilson.
Et merci à vous chers auditeurs pour votre écoute. C'était donc le premier épisode de cette saison 3 du journal du Moyen-Orient. Je vous souhaite une excellente soirée.
La première.
Le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Nous sommes vendredi et nous retrouverons bien sûr aussi Olivier Nederland pour le programme de Transversal. Olivier, bonsoir. Vous serez demain également en Afghanistan, Olivier, pour la reprise de Transversal avec deux reportages au programme.
Oui, deux reportages réalisés cet été par Wilson Fash que vous allez donc aussi retrouver demain. Deux reportages pour aborder les deux facettes d'un même pays. À Kaboul d'abord avec ceux qui résistent face aux talibans et puis dans les campagnes avec ceux qui au contraire soutiennent le régime taliban. Et puis je vous proposerai aussi un reportage dans le nord de la France à l'occasion de cette semaine de rentrée scolaire. Il va être question de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Alors on en parle assez peu et pourtant c'est essentiel, informer les jeunes, lever des tabous, c'est un rôle que l'école doit en principe remplir, chez nous, c'est écrit dans la loi d'ailleurs, mais les séances sont encore trop rares, en raison notamment d'un manque de moyens humains et financiers, eh bien c'est exactement pareil en France.
Est-ce que je peux vous déranger quelques minutes ?
Dans ce parc d'Amiens, il suffit de tendre le micro à des adolescents pour comprendre que l'école ne les instruit pas beaucoup sur la sexualité.
Alors, je m'appelle Romane, j'ai 16 ans.
Tu as suivi quelques cours d'éducation à la sexualité au collège ?
Au collège, oui, mais au lycée, non.
De quoi ça parlait ?
On parlait de comment on devait faire pour avoir des rapports sexuels, comment se protéger.
Est-ce que tu as eu des réponses à des questions que tu te posais ?
Bah à ce moment-là, je m'y intéressais pas vraiment au collège. J'étais pas trop. Je ressentais pas le besoin d'avoir ça.
Est-ce que toi, tu en parles avec tes parents ?
Non, j'ai un blocage. Je suis gênée quand je parle de ça avec mes parents.
Ça te manque, toi, le fait de pas avoir de cours là-dessus au lycée ?
Bah c'est toujours important parce que on est adolescent et. Bah, à tout moment, on peut avoir des rapports sexuels, on peut avoir une orientation, on devrait en parler au lycée, je pense.
Voilà, et il sera aussi question du sexe sur Internet avec notamment l'avis de la sociologue Yael M'Salem-Mingui. Elle estime, elle, que la pornographie fait aussi partie des outils pour parler de la sexualité.
Alors je dis ça parce que c'est aussi un lieu de visibilité des corps, un lieu de visibilité des positions sexuelles, un lieu de visibilité aussi de certaines caractéristiques du corps humain quand il est en phase d'excitation, dont on n'a pas en fait d'image en dehors de ces espaces-là. La pornographie, c'est aussi un espace de production médiatique des rapports inégalitaires entre les femmes et les hommes, mais pas seulement. Et c'est pas le lieu unique de production de ces inégalités. En fait, la pornographie, elle va mettre en scène finalement des inégalités de rapports de genre qui sont récurrentes dans l'ensemble de la société. Et du côté des adolescentes et des adolescents que nous, on a pu rencontrer, ce qu'on observe bien, c'est la différence entre quand on a été chercher du contenu sexuel en ligne et quand on s'est retrouvé avec ce contenu sexuel sans avoir été le chercher. Et en fait, la grande majorité des jeunes vont chercher les contenus sexuels en ligne.
Voilà donc pour ce second extrait d'un reportage de Lise Verbeek à découvrir demain dans Transversal à partir de midi et puis bien sûr aussi en podcast et sur ovio.be.
Merci Olivier, le rendez-vous est pris et restez fidèles au fin mot.
La première.
Le fin mot, Eddie Kakelbergs.